est venu. Et ce n'était pas un principe. Satan, ce n'est pas un principe du mal. C'est une créature vivante qui vit toujours aujourd'hui. Il est venu et il a fait ses trois tentations. Et Jésus a surmonté ces trois tentations par l'onction qu'il avait reçue, mais aussi par la volonté qu'il a manifestée en tant que fils de l'homme d'obéir à son Père. Et quand il a réussi cette épreuve, eh bien, Satan est parti. En attendant, et il attend toujours, vous voyez, il est dit qu'en attendant une occasion. Effectivement, il est revenu tenter Jésus dans le jardin de Gethsémané, où il a sué des grumeaux de sang pour nous, parce qu'il devait aller jusqu'au bout. Donc il a eu de nouveau une tentation énorme d'arrêter avant cette souffrance ignominieuse de la croix. Mais la première des choses, avec l'onction, il a défié Satan dans ses propres terrains et en refusant toutes ses offres qu'ils lui ont faites. Et nous, en tant que chrétiens, l'onction que nous avons reçue, c'est de résister à Satan. Il est dit, soumettez-vous à... Non ? Vous connaissez votre Bible ? Soumettez-vous à Satan ? Soumettez-vous à... Bah, dites-le. Soumettez-vous à... Allez, on le redit ensemble. Soumettez-vous à... Et résistez à Satan. Allez, on le redit encore une fois. Soumettez-vous à Dieu et résistez à Satan. Pardon ? Et il fuira. Voyez-vous, le faire fuir, c'est facile, hein ? Il suffit de se soumettre à Dieu. Il ne faut pas oublier de se soumettre à Dieu, hein, parce que résister, ça ne suffit pas. Il faut se soumettre. Parce que quand vous vous soumettez, vous recevez l'onction pour défier Satan et le faire fuir. Voilà. Jésus a vaincu Satan, c'est pour ça qu'il est venu. Et aujourd'hui, Satan est vaincu à cause de la croix, et nous avons la vie éternelle. Voilà, donc je reviens à ce Christ. Christ, c'est l'onction. Et nous sommes oint aussi lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur. Au moment où on reçoit Jésus, nous sommes oint. Parce que, pourquoi parce que? Je vais vous donner la réponse, mais vous l'avez. Pourquoi quand on se convertit à Jésus, on reçoit Jésus, pourquoi nous sommes oint? Pardon? On reçoit loin, oui. Pardon? Oui, mais pourquoi on reçoit le Saint-Esprit? Là, c'est de la théologie, vous voyez, c'est la théologie de l'AD. Hein. Si vous avez vu l'AD, vous voyez, c'est comme ça qu'il progresse. Parce que Jésus a reçu le pouvoir d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus, quand il est monté au ciel, il a reçu le pouvoir d'envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sur ses enfants. C'est ce pouvoir qu'il a reçu. Il ne l'avait pas avant. C'est le Père qui l'avait. Mais il a reçu le pouvoir du Père d'envoyer le Saint-Esprit sur tous ceux qui le reçoivent. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit parce que Jésus nous l'envoie. Ça s'appelle le paraclet. Le paraclet, celui qui remplace Jésus, celui qui nous, comment dirais-je, l'avocat, c'est celui qui nous défend devant le Père quand l'ennemi nous attaque. Il dit non. Celui-là m'appartient, etc. L'avocat, le défenseur, le soutien, voilà, etc. C'est automatique, si vous voulez. On reçoit automatiquement le Saint-Esprit parce que Jésus l'envoie. Parce qu'il voit que quelqu'un se donne à lui, eh ben, il accomplit ses promesses et il envoie le Saint-Esprit. Hello ? Effectivement, c'est important parce qu'il y a des pentecôtistes, dont nous sommes, qui pensent que on reçoit le Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit. Alors qu'en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on reçoit Jésus, on est baptisé dans l'Esprit, on est immergé dans l'Esprit. Par contre, après, dans la Bible, il est dit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis. Okay. Donc il faut qu'on cherche le remplissage après. Ça veut dire qu'on se vide. Hello ? Si on doit chercher le remplissage, on se vide. Okay. Donc il faut chercher à se remplir du Saint-Esprit. Et un des effets de l'onction, c'est qu'on peut parler en langue quand on est rempli du Saint-Esprit. Moi, je me suis donné à Christ quand j'avais 20 ans. C'était une rencontre un peu comme Paul de Damas, voilà, une lumière, un feu incroyable pendant plusieurs jours, au travers de la parole qui me dévorait, etc. Et j'étais baptisé dans l'esprit, quelque part, pas de problème. Mais ensuite, après, j'étais en proximité d'une église de Pentecôte, pentecôtiste, les pasteurs étaient pentecôtistes, et toutes les semaines, ils faisaient des réunions de recherche du Saint-Esprit pour le parler en langue. Moi, je voulais parler en langue, voilà, toujours. Mais j'avais une crainte, parce que, vous savez, je suis scientifique, et donc je me méfie un peu des contrefaçons, des choses qui ne sont pas, voilà, y compris de moi. Je me méfie aussi de moi, qu'on puisse tomber dans des choses qui ne sont pas bien. Et en plus, en tant que scientifique, bon, je n'avais pas ce saut de la foi. Je l'avais pour rencontrer Jésus, mais pour le Saint-Esprit, voilà, parler en langue, tout ça, je n'étais pas très à l'aise. J'ai cherché pendant 15 ans. 15 ans, le baptême, enfin, le parler en langue, vous voyez. Et au bout de 15 ans, je l'ai eu, parce que je suis entré dans la louange. Pendant une semaine, j'ai fait que de la louange, du début jusqu'à la fin. Et hop, parler en langue est venu tout seul. C'est rentré. C'est rempli du Saint-Esprit. Donc, notre responsabilité, c'est de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Mais le baptême de l'Esprit, nous l'avons au moment de notre conversion. Voilà, donc je résume un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Christ, selon la dimension biblique, c'est un petit Christ. C'est-à-dire nous sommes loin de l'Esprit lorsque nous acceptons Jésus. Et là, je vais parler de l'expérience spirituelle. Beaucoup de monde cherche une expérience. La dernière fois, j'ai parlé d'un Christ révolutionnaire. Moi, en 68, enfin plutôt 70, parce que 68, j'étais en province, en 70, j'étais à Paris, j'ai rencontré Michel, et là, on était à Sancier, Sorbonne, où ils fichaient en l'air, enfin, l'extrême gauche fichait en l'air l'extrême droite, non, l'extrême droite était, voilà ce qu'ils avaient dit, ils jetaient les étudiants par la fenêtre du deuxième étage, tout ça, enfin, c'était chaud, hein. Il n'y avait plus de pavé, mais il y avait des hommes qui volaient, hein. Donc c'était chaud. Michel était là-dedans aussi. Moi aussi, j'avais un stand biblique qui était déchiré régulièrement. Je recevais des gifles, des crachats, tout. Voilà, j'ai connu cette condition de révolution. Et il y avait en face du stand un gars qui venait, je ne sais pas si de la Colombie ou voilà. Il s'appelait Mouna, je crois. Il avait de la limonade, de la moula, enfin bon, c'était un truc hippie. Et il disait, Christ, c'est Che Guevara. Che Guevara, c'est le révolutionnaire. C'est Jésus-Christ, il mettait Jésus-Christ, Che Guevara. Vous voyez. Donc on mélangeait Christ avec des révolutionnaires pour révolutionner pour la cause politique. Voilà, donc il y a eu le Christ hippie, le Christ non conformiste, le Christ marginal. Mais c'est une mode, hein. Il a passé cette mode, hein. Aujourd'hui, vous allez à Sancier, voilà, vous n'avez plus ça. Hein. Ça existe encore, mais pas dans les universités. La dernière fois, j'avais parlé d'un reportage d'une jeune fille de 18 ans qui était à Thésée. Thésée, c'est en Bourgogne, hein, où catholique, protestant, voilà, on ne fait plus la différence. C'est un monastère où voilà, on essaie d'être œcuménique. Et elle disait ceci, on discute de tout et de rien, mais en perdre haleine. On est généralement contre la violence, contre le nucléaire, contre la société bourgeoise et les valeurs établies. Et donc voilà, dans ces lieux-là, vous voyez, on cherche Christ, mais vous voyez, c'est un autre Christ. Ce n'est que d'une façon abusive et simpliste que l'on peut ramener Jésus-Christ à la figure d'un marginal ou d'un non-conformiste. Si Jésus était marginal, c'est assurément dans sa perfection morale et dans sa sainteté. C'est vrai que personne ne peut arriver à sa perfection de sainteté et de morale. Qui le mettait à part de tout le reste des humains. D'ailleurs, à l'époque, il reconnaissait que Jésus avait une autorité que personne n'avait, et surtout pas les chefs religieux. Mais il était tellement marginal dans ce domaine que les hommes méchants et pervers se sont débarrassés en disant « crucifie-le, crucifie-le ». Vous voyez, il était gênant pour ceux qui étaient dans la corruption. Mais en ce qui concerne la fidélité aux Écritures, l'obéissance à la volonté du Père, Il a été certainement l'homme le plus conformiste qui puisse exister. Paul nous le dit dans Colossiens, qu'il est le fils de son amour, l'élu en qui Dieu prend plaisir. L'attitude de Jésus à l'égard des marginaux de son temps, il a fréquenté les publicains, les prostituées, les Zachée, hein, qui étaient collecteurs d'impôts, etc. Il ne faisait pas comme eux, mais il les fréquentait pour leur apporter l'amour. Donc voilà, brosser le tableau de Jésus. Maintenant, l'expérience. Aujourd'hui, les gens cherchent des Christ. Hein. Si vous allez dans le bouddhisme, ils parlent de Christ. Si vous allez dans le Nouvel Âge, ils parlent du Christ. Si vous allez, tous ces livres aujourd'hui qui sortent, on parle du Christ. Christ en vous. Hein. Un peu les mêmes expressions que dans la Bible. Hein. Donc c'est troublant. Mais on parle aussi d'expérience spirituelle. Aujourd'hui, Malraux, qui était un ministre de De Gaulle, il disait « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ?» Étonnant, comme prophétie. Et le XXIe siècle est spirituel. Allons ? Tout le monde cherche une spiritualité. Sauf que c'est le marché des religions. Et c'est le grand supermarché des religions. Chacun va dans les endroits spirituels, et comme à Auchan ou comme dans les grandes surfaces, il va chercher sa spiritualité, il va la composer dans son caddie spirituel. Il dit, tiens, je prends un peu de Bouddha, je prends un peu du Tao, je prends un peu du yoga, je prends un peu du chrétien, je prends un peu, vous voyez. Et vous pouvez rien dire, parce que l'autorité n'existe plus. Depuis mai 68, l'autorité, on l'a bannie. L'autorité institutionnelle. Donc chacun, avec son caddie, puis en fonction de ce qu'il arrange, il remet un coup dans son caddie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cette spiritualité, effectivement, elle est recherchée. Parce qu'on n'a plus de sens. Les gens, ils voient que voilà, la planète elle va disparaître, avec tout ce qu'on raconte, etc. Donc il y a une angoisse, et le spirituel remplace cette angoisse. Je vais parler de l'expérience spirituelle sous quatre angles. L'objet de l'expérience, la porte de l'expérience, le vif, le contenu vif de l'expérience et le développement de l'expérience. Tout d'abord l'objet. On peut chercher à rencontrer quelque chose sans s'occuper de savoir ce qu'on rencontre au juste. Pourvu que l'on rencontre une réalité plus grande que soi, dans le spirituel. Quelque chose qui nous serve d'un absolu, qui nous tire en avant, et qui on ne pousse pas plus loin, on ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière, mais on veut quelque chose qui nous dépasse. Et sur cette pente, beaucoup de personnes, dans leur quête spirituelle, leur expérience spirituelle, s'exposent à entrer en contact avec les démons, les puissants des ténèbres, mais déguisés sous de faux atours. Parce que comme on ne cherche pas ce qu'il y a derrière, on veut juste une expérience. Donc on s'ouvre à tout. Et on est exposé à toutes sortes d'influences spirituelles. Bien sûr, il y a les adorateurs volontaires du diable. Ça s'appelle les satanistes, ça existe aussi. Ils ne sont pas nombreux, qui font des messes noires ou autres. Mais une foule de gens entrent en contact avec les démons sans le savoir. Sans le savoir. Et selon la Bible, l'objet ou le contenu de l'expérience ne doit pas être n'importe quoi. Il faut tester les esprits. Le Seigneur Jésus lui-même, il l'a dit, hein, et c'est lui qu'il faut rencontrer, et pas quelqu'un d'autre à la place. J'étais frappé, parce que je sors du catholicisme, de lire ce qui s'est passé lorsque Bernadette de Soubirous a rencontré la Vierge à Lourdes. Il y en a qui ont lu ce... Non ? Moi, ça me fait pleurer et rire en même temps, mais en même temps, je suis curieux de savoir pourquoi l'Église catholique a pu se laisser berner. Enfin, pour nous, hein, parce que pour eux, non, pour eux, la Vierge, elle existe, elle répond, etc. Hein, donc, je respectais leur croyance. Il y en a qui croient ici que la Vierge répond aux prières et tout ça. Non. Mais eux, ils croient. Ils sont des millions et des millions et des millions. Donc je ne veux pas les mépriser. J'ai dit pourquoi si nous, on croit que c'est faux, pourquoi ils se sont laissés berner? Non? Oui, oui, tout ça, c'est exact. Mais quel est le processus qui a fait que Bernadette, qui a rencontré cette Vierge, je ne sais pas combien de fois, hein, ça a duré plusieurs semaines, peut-être voire des mois, hein, c'était pas juste une apparition. Hein, elle venait tous les matins, ou je ne sais pas, enfin, je ne connais plus les détails. Hein. Je veux dire, c'était une réelle apparition, hein, attention, hein, c'est pas une illusion. Hein. Ok. Mais pourquoi est-ce que l'Église catholique a pu... Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres apparitions. Hein, là, Lourdes, c'est un peu loin. Mais c'est les mêmes choses qui se produisent. Quand on ne sait pas le pourquoi, c'est pour ça que moi, je cherche les pourquoi. Moi. Quand on ne sait pas les pourquoi, on retombe dedans. Parce qu'on ne connaît pas les pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, il y a une petite erreur dans l'interprétation de la parole. Et en fait, cette fameuse Bernadette, elle était allée voir le prêtre. D'ailleurs, ils étaient deux, je crois. Ils étaient trois, je crois, à voir la Vierge. Hein. Ils n'étaient pas tout seuls. Elle est allée voir le prêtre et lui a raconté ce qu'elle a vu. Et le prêtre, qui connaissait sa Bible, il a dit « C'est pas possible, c'est diabolique, ça. » Et il avait une bonne réaction. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça que j'aime bien lire, vous voyez, pas raconter ce qu'on raconte sur les trucs. Parce que ça, c'est documenté par l'Église catholique. Il a dit « Non, c'est pas possible, c'est pas possible. » C'est diabolique et tout ça. Et il a voulu l'empêcher. Il a dit, non, tu dis ça à personne, etc. Non, non, ça t'est caché. L'événement, au départ, c'était totalement secret entre eux et le prêtre qui était son confident. Et bon, je vous passe des détails, ça continuait, etc. Et puis le prêtre a eu des pressions du peuple. Souvent, un mari, c'est parce qu'il y a des pressions du peuple. Pas forcément la hiérarchie. Il y a beaucoup de prêtres que je connais, je discute, ils disent non, on n'y croit pas, mais bon, le peuple, il veut, donc voilà. Comme c'est une église de masse, ils sont obligés de lâcher. Bon. Et le peuple a dit, mais si, parce qu'il commençait à raconter à ses parents, toutes ses apparitions, tout ça. Et la pression sur le prêtre a fait que, à un moment donné, il est entré dans un raisonnement, il a été obligé de raisonner, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, c'est vrai, si elle est si belle, ça peut venir que de Dieu. Vous voyez, c'est là qu'à un moment donné, ça tournait. Au départ, il ne croyait pas. Il a dit non, 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 non. Et le peuple a dit, mais si, mais si, mais si. La Vierge, elle est apparue, parce qu'elle est apparue ailleurs, etc. Et le prêtre, voilà, il pouvait plus retenir, voilà, parce qu'il avait tout le monde sur le dos. Il a dit, bah oui, si elle est si belle, ça peut venir que de Dieu. Vous voyez, c'est juste un raisonnement. Un tout petit raisonnement qui fait que si elle est si belle, ça peut venir que de Dieu. Il a oublié que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ouais. Mais c'est pas évident quand vous êtes dans la pression. Hein, pression. Ouais. Donc moi, je jette la pierre à personne, y compris pas à ce prêtre, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve chez les évangéliques dans des mêmes situations. Ou parce que c'est beau, parce que ceci, parce que cela, on tombe dedans. Donc, soyons très humbles par rapport à toutes ces choses. Ne critiquons pas trop. Voilà, il faut tester les esprits. La Bible dit tester les esprits s'ils viennent de Dieu. Parce que le diable peut faire des choses extraordinaires et très très belles. La deuxième chose, c'est la porte de l'expérience. Il y a une porte. Jésus a dit « Je suis la porte ». Pour nombre de personnes... plus en plus grand, la porte de l'expérience spirituelle, c'est un certain état psychologique, des sensations, des émotions, éventuellement des visions, des voix. Mais si quelqu'un a des émotions, des sensations, même très fortes, ça reste bien en delà de la dimension spirituelle de l'expérience biblique. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était quelque chose de très très fort. Voilà. Mais c'était sur la base de la parole. Et le grand danger aujourd'hui, c'est que beaucoup restent au stade de l'émotion, même de la commotion. Cela risque d'autant d'arriver que si la forme du culte fait largement appel à l'émotivité. Il y a beaucoup de cultes maintenant dans la louange, vous avez comme dans les boîtes de nuit, voilà, la fumée, enfin, tous les effets, si vous voulez, émotionnels, hein, même dans les églises évangéliques. Hein. Je ne suis pas contre de la fumée, mais vous voyez, c'est l'idée de créer de l'émotion, de créer un espace dans lequel vous avez des sensations, des émotions. Et ça, ça empêche déjà d'avoir un discernement sur ce qui va se passer. Ça risque d'autant plus d'arriver si la forme du culte fait appel à ça, plutôt qu'à l'intelligence et à la volonté. C'est pour ça la part de l'enseignement que je fais est importante, parce qu'elle s'adresse à votre intelligence, à votre volonté, à votre raison. Dieu vous a donné une raison. Alors, il y a un temps d'émotion au niveau de la louange, et il y a un temps de raison pendant le message. Vous voyez, il faut un équilibre, mais pas que de l'émotion. Parce que ça crée un effet psychologique. Et aujourd'hui, avec les battements, la batterie, etc., comme vous le savez, moi, Michel, quand on est allé à Bethel Church, là, on est sorti, je l'ai emmené en voiture, et dans la voiture, j'ai fait 5 km en voiture, il a dit « arrête-toi, arrête-toi ». Je dis « pourquoi je dois m'arrêter ? Je ne peux pas m'arrêter. Là-bas, il y a 5 files de voitures, vous savez, c'est des trucs énormes ». Il dit « je ne peux pas ». Il dit « si, il y a mon cœur qui n'arrête plus d'arrêter, il n'arrête plus de battre et tout ça ». Je dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « non ». Et donc, je me suis arrêté, il a dit « il faut que je fasse un rapatriement sanitaire ». Je dis « attends, on vient d'arriver, on va prendre l'avion pour repartir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ?» Et ça lui est arrivé à la sortie, vous voyez, d'un temps de battement, de louange, etc. Alors, il y a des phénomènes de battement. Jean-Marc Sémoulin, ça lui est arrivé aussi, quand il y avait Bénigne qui était là, etc. C'est des techniques qu'on utilise pour créer une ambiance, une émotion. Ouais. Ça ne vient pas de Dieu. C'est humain, mais c'est diabolique derrière. Donc, voyez, restons dans la simplicité où nous louons Dieu, pas avec des techniques, mais nous louons Dieu pour ce qu'il est. Quand les auditeurs entendent Pierre à la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Vous, le cœur vivement touché, c'est simplement par le discours que Pierre a prononcé, par la parole de vérité, par l'expression de la vérité de l'évangile. C'est ça qui doit toucher nos cœurs et qui peut créer une émotion qui est bien plus grande et plus vraie que n'importe quel effet psychologique. Par contre, la différence avec Pierre ou avec ces effets qui sont produits maintenant dans les églises, c'est que après avoir eu le cœur vivement touché, les gens qui ont entendu Pierre, ils ont dit « que ferons-nous ? » Voyez-vous, il y a une action derrière. Là, la fille dont je parlais, de Thésée, là, elle disait, des fois, il reste pendant 6 heures allongé par terre, la méditation, etc. Il se relève et puis il recommence 6 heures. Ouais, on expérimente pour expérimenter. C'est ça qui est faux. Avec Dieu, on expérimente sa présence pour agir. C'est pour l'action, pour aller au dehors. Il dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez par terre en train d'expérimenter des choses extraordinaires et puis voilà, vous serez bien. Non. Pour aller à l'extérieur. Pour que nous puissions annoncer l'évangile à d'autres. Il y a un but. Oui. Et ceux qui ont entendu Pierre, eh bien, ils ont eu la réponse de Pierre en disant, repentez-vous, que vos péchés soient effacés et évangélisez. Et à ce moment-là, tous les disciples sont allés dans tout le pourtour méditerranéen pour transformer la civilisation de l'époque en une civilisation chrétienne. Le Saint-Esprit nous touche pour agir, pour faire un acte. Un acte pour ici, ce matin, Hélène avait prévu une petite vidéo pour les missionnaires, vous voyez, c'est pour aller à l'extérieur, pour aider les pauvres, ceux qui sont en souffrance, etc. C'est pour agir, pour manifester l'amour de Dieu. Dans Paul, il a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le Seigneur, pardon, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez, ça veut dire marcher, pas rester statique. Et marchez en lui. Voyez-vous ? C'est pour marcher, pour faire quelque chose. Il s'agit bien rien moins de recevoir Christ en personne sur la base d'une révélation et qu'elle précise que l'évangile, c'est pour donner aux autres. Alors, le vif de l'expérience. Cette porte qui est franchie, quand on accepte le Seigneur, elle nous conduit à une expérience vivante. C'est-à-dire la vie, la puissance de Dieu, la présence de Dieu qui se manifeste dans la sphère de notre expérience personnelle. Dans Jean chapitre 1, verset 12, le fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ entraîne avec lui ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Avec Nicodème, on est de nouveau, c'est-à-dire dans un nouvel ordre de vie. C'est pas revenir à la vie, c'est un ordre de vie différent, c'est une vie spirituelle, c'est une vie éternelle. On le reçoit. Et ensuite, nous avons des frères et sœurs en Christ qui ont la même naissance, donc on est dans la même dimension, et nous avons le même Père. Donc nous participons dans une famille spirituelle. L'expérience spirituelle, dans les dimensions bibliques, représente plus qu'une connaissance. Elle représente une naissance. On naît à une nouvelle vie. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les gens cherchent des sensations mystiques. Être unis avec Dieu. Unis, mais ça a toujours existé. Hein. Ça s'appelle les mystiques. Hein, unis à Dieu. Mais le Seigneur veut que notre union avec lui débouche sur une action. Comme lui, il est venu sur la terre, il a donné sa vie, il est débouché sur une action. Il nous a aimés pour donner sa vie. La deuxième chose, c'est que le fait de recevoir, c'est Colossiens 1.12, le fait de recevoir le Seigneur Jésus entraîne une délivrance dont la portée est immense. Vous avez cette délivrance, les dons spirituels qui sont donnés pour nous libérer, on en a parlé tout à l'heure, le mystère de la maison d'Élie, pour édifier l'Église, sortir de nos chaînes, pour pouvoir vivre une nouvelle dimension. Et la troisième chose, c'est que quand l'on aperçoit le Seigneur Jésus, cela nous mène à une communion avec lui, une communion intime, personnelle avec lui. Et là, il faut chercher le vrai du faux de cette communion. Ce n'est pas une communion mystique, c'est une communion de personne à personne. On le connaît comme une personne. On a une proximité avec lui, comme lui avait une proximité avec le Père. Il était uni au Père. Donc, Colossiens 1:27, celui qui a reçu le Seigneur est uni au Seigneur. Il est en lui, dès ce moment-là, jamais auparavant. Il n'est plus isolé, il n'est plus seul. Christ est devenu sa demeure. D'autre part, lui-même est devenu la demeure de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez, il y a une communion entre Christ et nous et Christ. Alors, quel est le développement de cette expérience? Eh bien, dans cette communion, l'expérience doit se poursuivre. C'est ce qu'indique le marché. Marché, ça veut dire, il faut, c'est pas rester statique. C'est marcher en lui. Voyez-vous. Donc chaque jour nous amène à marcher à lui, à le connaître et ne pas nous endurcir. Parce que si on reste debout, on s'endurcit parce qu'il y a le monde qui reprend le dessus. Il faut marcher avec lui. Une chose capitale à souligner dans ce développement, c'est Christ et sa parole restent toujours au centre. Marcher vers des expériences sensationnelles et miraculeuses ne suffit pas. Il faut marcher dans sa parole. Il faut marcher sur sa parole. Christ et sa parole occupent toujours le centre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse notre parole. Et beaucoup de chrétiens maintenant écoutent beaucoup d'enseignements, mais n'écoutent pas la parole, ne lisent plus la parole, ne connaissent pas la parole. Il ne suffit pas d'honorer le Seigneur des lèvres. Ces affirmations qui touchent sa puissance, sa suprémité, eh bien, nous devons être conséquents dans nos décisions et être ouverts à cette invitation que le Seigneur nous donne de le connaître de mieux en mieux. Marcher en lui, et c'est une existence, c'est une expérience qui est au quotidien, qui doit nous faire écouter la parole au quotidien. Soyez enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, non seulement dans la connaissance des vérités de Christ, il faut le connaître personnellement, il faut lui parler, il faut la prière, il faut que nous puissions devenir un compagnon, pas un copain. On ne tape pas dans le dos du Seigneur, mais on est un compagnon. On marche avec lui, il marche avec nous. Pour terminer, la Bible contraste la paille, c'est-à-dire le méchant, et l'arbre qui est le juste. C'est dans Psaume chapitre 1, versets 3 et 4. Vous savez que la paille est improductive, on la jette. Elle est légère, inconsistante, sans racines. Le moindre vent enlève la paille, l'emporte. Et ça, c'est les multiples expériences spirituelles. Ces expériences spirituelles sont emportées et ne valent rien du tout, parce qu'elles ne sont pas en Dieu. Alors que l'arbre est productif, il produit du fruit en sa saison. Il est solidement planté dans un terrain où il y a la vie, l'eau de l'esprit qui vient, tenue par ses racines, il plonge entièrement dans le sol et son expérience spirituelle est de dimension biblique, de dimension qui va l'aider à le connaître de plus en plus. La véritable expérience spirituelle conduira à l'amour de la parole et l'obéissance à ses commandements. D'ailleurs, c'est un conseil que John Wimber nous donnait en disant, parce qu'il y avait énormément d'expériences spirituelles quand on était dans les rencontres avec Wimber, mais il disait, vous pouvez tester si la personne, parce qu'il y avait des expériences démoniaques, des expériences spirituelles dans la même pièce. Hein. Mais il disait, vous pouvez le tester si après l'expérience, la personne s'attache à la parole, vous voyez que c'est venu de Dieu. Si c'est juste une expérience comme ça, ou même si vient de l'ennemi, il ne s'attachera pas à la parole. Et vous, il avait ce critère que je vous rappelle ce matin, qui est, est-ce que ce que vous ressentez, ce que vous expérimentez, ça vous donne un amour de la parole ou pas? Parce que si ce n'est pas l'amour de la parole, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu honore sa parole. Le Seigneur a honoré la parole. Il a dit, il est écrit. Celui qui est l'arbre, le juste, il va prospérer. Celui qui est la paille, il va disparaître. Donc soyons très vigilants. On parle beaucoup de réveil, on parle beaucoup de choses comme ça, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est vrai. Est-ce que c'est biblique ou pas? Il faut faire attention de ne pas nous laisser impressionner. Il faut rester sur l'enseignement que la parole nous donne. Et je vous invite à faire attention pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vous entourent, d'avoir ces critères qui sont basés sur la parole et pas sur l'émotion, pas sur le ressenti, pas sur toutes sortes de choses qui vont disparaître comme la paille parce qu'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous croyons que tu es capable de tout. Parce que tu es le Seigneur de tout, tu es à l'origine de tout, à la consommation de tout, tu es le Créateur.